Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique. Pour financer les besoins ponctuels de trésorerie ou l'acquisition de biens d'équipement, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Il y a 25 ans, le président Mobutu était chassé du pouvoir par Laurent Désiré Kabila et les troupes de l'AFDL, l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo. Un départ sans gloire pour le maréchal après 32 années d'un règne sans partage sur le Zaïre. Quel regard portez-vous sur les années Mobutu? Que reste-t-il des espoirs de démocratie, de développement nés le 17 mai 1997? Peut-on parler de révolution manquée? On lance le débat dans une demi-heure. Appelez-nous, vous pouvez encore composer le 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Direction d'abord le Sénégal, où un imbroglio agite la scène politique depuis 10 jours. Cela concerne la liste de la principale coalition d'opposition pour le département de Dakar, en vue des élections législatives du 31 juillet. On va tenter d'y voir plus clair avec notre correspondante Charlotte Hidra. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
En ligne également avec nous, Aruna, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous nous appelez de Kédougou. Aruna, vous avez la parole, on vous écoute.
La liste de Yewi Askanwi et Wallou Sénégal est menacée d'invalidation car elle ne respecte pas les règles de la parité. Ousmane Sonko parle d'une erreur humaine. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Première question. Deuxième question, peut-on parler de sabotage? Et la troisième question, la coalition peut-elle encore proposer une liste modifiée?
Alors Charlotte, qu'est-ce qui pose problème avec cette liste de la principale coalition d'opposition pour le département de Dakar?
Alors d'abord, c'est une liste qui comprend 7 noms, hein, avec en tête de liste Barthélémy Diaz, donc le maire de Dakar. Mais sur les 7 candidats, il n'y a que 2 femmes, alors que d'après la loi sur la parité, il devrait y en avoir 3. Ce qu'on peut rappeler d'abord, c'est que Yewi Askanwi, qui est déjà une très large coalition de partis et de mouvements, s'est allié juste avant le dépôt des listes avec une autre coalition d'opposition. Position, hein, Aruna le rappelait, c'est Wallou Sénégal, formé autour du PDS de l'ancien président Abdoulaye Wade. Et donc, pour confectionner les listes, forcément, il a fallu faire des choix, hein, sachant que chaque parti membre de ces coalitions avait leur candidat à inscrire sur la liste. Et apparemment, eh bien, il n'y a pas eu d'accord à la dernière minute pour respecter la parité, pour enlever un candidat homme et le remplacer par une candidate, malgré des échanges de coups de fil le dimanche soir, juste avant leur limite de dépôt des dossiers. Hein. C'est Ousmane Sonko qui a expliqué ça mardi soir. Selon lui, Khalifa Fassal, qui était chargé de la confection des listes, a tardé à prendre une décision. Et toujours selon Ousmane Sonko, eh bien, la fatigue et la faim, je cite, ont eu raison du bon jugement des représentants de la coalition. Donc voilà, il a effectivement reconnu une erreur, des négligences. Tout simplement, il n'y a pas eu ni de complot, ni plan de Macky Sall dans cette affaire, selon lui. Alors, c'est vrai qu'avant cela, des membres de la coalition avaient évoqué un sabotage en interne. Certains avaient même directement accusé Khalifa Fassal d'avoir torpillé la liste. Mais Ousmane Sonko a assuré que pas du tout, qu'il n'y avait pas de problème avec l'ancien maire de Dakar ni avec Barthélémy Diaz. Et Khalifa Fassal, lui, ne s'est pas exprimé sur cette affaire.
Alors la liste peut-elle encore être modifiée, Charlotte?
Bon, les avis ont divergé ces derniers jours entre experts et électoraux sur cette possibilité ou pas. En tout cas, la coalition Yewi Askanwi a essayé. Lundi, le mandataire de la coalition est allé à la direction générale des élections pour faire valoir des désistements, pour essayer de remplacer un nom d'homme par un nom de femme. Mais selon ce responsable d'Etiéphale, la DGE n'a pas voulu. Elle s'est déclarée incompétente.
Alors, quelles seraient les chances de la coalition Yewi Askanwi si elle ne peut pas participer aux élections à Dakar?
Bon, c'est difficile d'anticiper. Le département de Dakar, ça fait déjà 7 députés sur un total de 165 sièges à l'Assemblée, sachant que l'opposition avait fait de très bons scores dans la capitale lors des élections locales de janvier dernier, et sachant que l'objectif de la coalition Yewi Askanwi, c'est d'imposer une cohabitation au président Macky Sall en juillet. Pour l'instant, on peut pas dire que cette liste ne va pas participer. En tout cas, de toute façon, Ousmane Sonko l'a redit hier, cette liste de Yewi à Dakar doit être être validée, selon lui. Il a même dit « nous allons nous mettre en position de combat pour faire face à Macky Sall ». Et pour finir, en face justement, la coalition de la majorité Beno Bokyakar, elle se dit confiante, mais il y a un autre débat autour des listes de cette coalition Beno Bokyakar. Cette coalition a déposé plus de parrainages que le nombre requis, un parrainage de plus. Et pour cela, eh ben, selon Yehoui Askanoui, les listes de la majorité au niveau national devraient être purement et simplement invalidées. Faux, hein, répond la tête de liste de Beno Bokyakar, Aminata Touré, qui affirme que la loi est très claire dans ce cas-là, que ce parrainage supplémentaire est considéré comme nul et non avenu. Elle a dénoncé un enfumage. Bref, j'espère que j'étais claire. En tout cas, vous le sentez, le contexte est assez électrique en vue de ces législatives.
Merci Charlotte pour ces explications qui, je l'espère, ont éclairé votre lanterne. Aruna, bonne journée à tous les deux. Le Mali se retire du G5 Sahel et de sa force conjointe anti-djihadiste. La junte au pouvoir à Bamako a annoncé dimanche son retrait de l'organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Et hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné la décision du Mali en espérant que Bamako prendra ses responsabilités et continuera le dialogue avec ses voisins pour lutter contre la menace terroriste. Mokhtar, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs de l'émission qui nous donne la parole.
Vous nous appelez de Diundiu au Niger. À mes côtés en studio, Franck Alexandre, journaliste spécialisé dans les questions de défense à RFI. Bonjour Franck.
Bonjour Chantal.
Mokhtar, quelle est votre première question ?
Oui, ma première question est quelles conséquences ce départ peut-il avoir sur la sécurité au Mali et dans la sous-région ?
Franck Alexandre, d'abord, peut-être qu'il faut rappeler pour quelles raisons le Mali a-t-il décidé de se retirer du G5 Sahel ?
Le Mali, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, s'isole de plus en plus de la communauté internationale et de ses partenaires dans la région. On le voit bien avec les accords de défense, la fin de Barkhane, la réarticulation. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est un très mauvais signal, Mokhtar, pour la sécurité du Mali, à commencer. Tant le G5, rappelez-vous, hein, c'était révélé comme une force d'appui à Barkhane, efficace dans la lutte contre les groupes djihadistes dans la zone des trois frontières. Je voudrais rappeler un événement, c'était il y a un an, Mokhtar, le 8e bataillon tchadien, tant attendu, rappelez-vous, on l'avait espéré pendant des mois, il était arrivé dans cette zone du Gourma, le sud du Gourma, sur la frontière avec le Burkina. Il avait été déployé avec les parachutistes français et ils étaient parvenus ensemble à bousculer les Katsiba d'Acmi ou de l'EIGS d'ailleurs, implanté dans cette région. Depuis, la force se dissout peu à peu. Les Tchadiens qui étaient positionnés à Terra au Niger sont rentrés chez eux il y a 15 jours. Ils sont désormais déployés dans la région du lac Tchad et sans le Mali. L'horizon est plutôt sombre. Hein. Jusqu'à présent, deux unités maliennes étaient taguées G5 et l'une qui est installé à Boulikessi, l'autre à Tessit, sont environ 500 hommes. Sans le Mali, le G5 devient donc G4 et perd de sa substance, car l'essence même de cette force, Chantal, c'était d'opérer de part et d'autre des frontières dans une profondeur de 50 km. C'est ce qu'on appelle un droit de poursuite, de manière à ce que cette zone poreuse, vous le savez, des trois frontières, Mali, Burkina, Niger, ne soit pas un sanctuaire djihadiste.
Mokhtar, vous avez une autre question pour Franck Alexandre ?
Oui, l'avenir de la force G5 Sahel est-il compromis avec ce retrait ou pouvait-il intégrer d'autres pays de la sous-région menacés par le terrorisme comme le Bénin, la Côte d'Ivoire ou le Togo ?
Franck.
Oui, le chef du G5, hein, tout d'abord, le général tchadien Bikimo, c'est un officier très expérimenté, commande encore deux bataillons, un Nigérien et un Burkinabé, 850 hommes chacun. Ils opèrent toujours dans le fuseau centre. Alors, est-ce que le Mali va tolérer le droit de poursuite au-delà de ses frontières ? Si ce n'est pas le cas, eh bien, le G5 perd sa vocation. Il faudra alors tout revoir, Chantal, peut-être dire stop, et ce sera alors un élément d'instabilité supplémentaire. Il est trop tôt pour imaginer que d'autres pays comme le Bénin ou la Côte d'Ivoire rejoignent cette force. Ce qu'il faut noter, c'est que le Mali, je le répète, s'isole davantage de la France, mais pas seulement, hein, également de ses partenaires régionaux, à commencer par le Tchad, qui a refusé de continuer à collaborer avec la junte malienne et qui a par exemple refusé de céder son commandement.
Et le président du Niger, Mohamed Bazoum, a déclaré cette semaine dans une interview à nos confrères de La Croix et de l'Obs, le G5 Sahel est mort. Ça ressemble quand même à la chronique d'une mort annoncée, Franck.
Absolument. C'est-à-dire que dès lors qu'il n'y a plus de partenariat, la force perd toute sa vocation. Et les unités qui étaient dédiées à cette force vont revenir dans leur force nationale, le bataillon burkinabé dans l'armée burkinabé et son homologue nigérien également continuera d'opérer sûrement avec les deux petits GTIA français, notamment Bruno, le GTIA Bruno, qui est déployé le long de la frontière du Niger et du Mali.
Merci beaucoup Franck-Alexandre pour ces précisions. À bientôt sur l'antenne. Mokhtar, bonne journée à Diundu. Au Nigeria, l'état de Sokoto est sous tension depuis la lapidation à mort il y a une semaine d'une étudiante chrétienne par des dizaines de ses camarades musulmans qui l'accusaient de blasphème. Le corps de l'adolescente a été brûlé et la vidéo a diffusé sur les réseaux sociaux. Ahmadou, bonjour.
Bonjour Shorta, bonjour à tous les têtes de la Radio France Internationale.
Vous êtes étudiant nigérien et vous nous appelez de Ouagadougou. En ligne avec nous, Vincent Iribarren, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur de l'Institut français de recherche en Afrique au Nigeria, l'IFRA, Nigeria, installé à l'université d'Ibadan. Ahmadou, on vous écoute.
J'ai été tué la semaine dernière dans le nord-ouest du Nigeria par les étudiants musulmans. Elle aurait blasphémé le prophète. Comment expliquer une telle situation? Est-ce le signe de tension entre les communautés chrétiennes et musulmanes dans cette région du pays?
Vincent Iribarren, lundi matin, la police a dispersé une manifestation devant la maison d'une nouvelle femme accusée de blasphème. Cela s'est passé cette fois dans la banlieue de Maïdougouri, toujours dans le nord du Nigeria. Alors pourquoi cette montée des tensions entre chrétiens et musulmans dans le nord du pays?
Bonjour, bonjour à tous, merci pour cette question. Alors évidemment, ça fait des années qu'on a des tensions entre musulmans et chrétiens dans le nord du pays. Alors on a l'administration ici meurtrière, mais on a aussi Boko Haram qui s'est rendu célèbre il y a 8 ans maintenant, en levant de nombreuses femmes dans un collège situé dans le Borno. Donc on a quand même des attaques contre les chrétiens dans tout le nord du Nigeria qui se répètent. Hein. On a aussi des crises dans les villes comme Jos ou Kaduna, qui sont deux villes dans le nord du Nigeria. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau quelque part, hein, cette tension contre les chrétiens. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est une situation où les personnes qui habitent dans le nord du Nigeria sont très peu en sécurité. Et donc ce n'est pas que les chrétiens qui sont souvent visés par ces violences, ce sont souvent ces personnes finalement. On a un syndrome d'attaque, de kidnapping, attaque du train à la fin du mois de mars entre Abuja et Kaduna, de kidnapping répété dans le nord-ouest et dans le nord du pays, et finalement de violence contre toutes les personnes qui habitent dans la région. Donc là, cette fois-ci, on a des violences qui prennent la forme antichrétienne, c'est certain. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un vrai phénomène de l'insécurité et finalement d'injustice dans le pays, parce qu'on a dans tout le pays des meurtres comme ça qui se produisent ici pour une histoire de blasphème, mais dans le sud ça peut prendre une forme d'attaque contre soi-disant la sorcellerie. Donc on a finalement une impunité, on peut attaquer des gens et finalement les tuer et finalement ne pas finir en prison ou avoir des jugements qui sont qualifiés de sommaires. Donc on a tout un climat et d'atmosphère au Nigeria, en particulier au nord, d'insécurité et de violence, et qui ne peut que s'accélérer dans ces derniers mois avant les élections de 2023.
Mais je reviens à la situation dans le nord. La charia avait été proclamée en 2000 dans 12 États. Cette instauration de la charia à l'époque avait déjà provoqué des émeutes meurtrières. Il y avait eu plusieurs centaines de morts. Comment se passe depuis 22 ans la cohabitation entre les tribunaux islamiques et le système judiciaire étatique?
Effectivement, il y a plusieurs système juridique dans tout le Nigeria et en particulier dans le nord où il y a la charia et le droit nigérian. Et finalement, ce qui se passe, c'est que ça se passe pas très bien, avec beaucoup de confrontations, de personnes qui sont jugées par un tribunal ou l'autre, où l'on choisit l'un ou l'autre en fonction de ce que l'on veut faire et du résultat que l'on veut obtenir. Je parlais d'impunité tout à l'heure, c'est effectivement ça le sentiment qui reste dans le nord du Nigeria, où finalement les tribunaux ne jugent que selon ce que le pouvoir veut bien faire, veut bien laisser faire, évidemment. Et cette coopération se passe finalement très très mal, avec une énorme corruption au sein de la justice. mais aussi évidemment un système qui perpétue la violence dans tout le nord du pays, mais aussi dans tout le pays en fait.
Merci beaucoup Vincent Iribarren d'avoir répondu à nos questions. À Amadou, merci de nous avoir appelé. Bonne journée à vous. On va terminer cette première partie d'appel sur l'actualité avec la polémique autour du joueur sénégalais du PSG, Idrissa Gana Gueye. Une affaire embarrassante pour le club parisien. Mamadou, bonjour.
Bonjour Santa, bonjour aux auditeurs.
Vous nous appelez de Kindia en Guinée. À mes côtés en studio, Antoine Grenier du service des sports de RFI. Bonjour.
Bonjour Chantal.
Mamadou, vous avez la parole.
Idrissa Gana Gueye n'a pas joué le match contre Montpellier le samedi dernier, car il n'a pas voulu participer à la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Depuis, les gens se déchirent sur les réseaux sociaux. Est-ce que cet acte pourrait être sanctionné par le PSG ou par l'instance internationale de football?
Alors Antoine Grenier, il faut d'abord souligner qu'on soupçonne Idrissa Gana Gueye d'avoir déclaré forfait pour ne pas porter le maillot floqué aux couleurs de l'arc-en-ciel, mais le joueur ne s'est toujours pas exprimé publiquement.
Exactement. Alors c'est important de resituer un peu le contexte. Chaque année depuis 2019, la Ligue de foot professionnelle organise un événement pendant une journée de championnat pour lutter contre l'homophobie. Cette année, donc, les joueurs portaient des maillots floqués avec l'arc-en-ciel. Et avant le coup d'envoi, les joueurs et le corps arbitral se rassemblaient autour d'une affiche portant le message homo ou hétéro, on a tous le même maillot. Un événement qui s'est donc tenu le week-end dernier, lors duquel le Paris Saint-Germain, le club d'Idrissa Gana Gueye, affrontait Montpellier. Il faisait partie du groupe, mais l'a quitté pour des raisons personnelles. C'est ce qu'a dit Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain sénégalais était en tribune. Il ne s'est pas exprimé, Gana Gueye. Il n'a donc pas justifié les raisons qui l'ont poussé à ne pas jouer, mais beaucoup avancent que le joueur a refusé de s'associer à cette action de lutte contre l'homophobie en raison de ses convictions religieuses. À partir de là, on a pu entendre ou lire sur les réseaux des raccourcis de toutes sortes. Beaucoup soulignent d'ailleurs que Gueye n'avait pas participé à cette journée de lutte contre l'homophobie l'an passé officiellement pour raisons médicales. On va simplement rappeler que Gueye, international sénégalais, évolue dans le championnat de France. En France, l'homophobie est un délit, tandis qu'au Sénégal, l'homosexualité est passible d'une peine d'emprisonnement, des positions difficilement conciliables.
Alors vous le disiez, l'an dernier, Idrissa Gana Gueye n'avait pas joué le match de la journée consacrée à la lutte contre l'homophobie. Il avait évoqué une gastro-entérite. À ce moment-là, personne n'avait mis sa parole en doute.
Non, parce que le problème était médical. Ça arrive d'être malade quand on est joueur de foot. Alors, est-ce que c'était une maladie diplomatique? C'est impossible à savoir. Mais la communication du club, elle interroge. Et par là, sa gestion même du cas Gana Gueye. Parce que si l'an passé, déjà, le problème de la participation du joueur à cette journée s'était posé, pourquoi l'avoir convoqué à nouveau pour le match contre Montpellier? Et surtout, pourquoi Mauricio Pochettino l'a-t-il pointé du doigt? A-t-il pointé du doigt les raisons personnelles et ainsi ouvert la porte aux rumeurs? C'est une des questions qui sont posées par cette affaire.
Alors Mamadou voulait savoir si le joueur sénégalais risquait d'être sanctionné par son club, le PSG, ou par les instances professionnelles du foot.
Alors par son club, c'est très improbable. Le PSG n'est pas du genre à sévir contre un de ses joueurs. La loi, elle est claire. Un employeur ne peut pas interdire aux salariés d'avoir une conviction religieuse, mais invoquer sa religion comme un motif pour refuser d'exécuter des tâches pour lesquelles on a été embauché, en l'occurrence jouer un match de foot, c'est interdit par le code du travail. Donc le PSG aurait pu forcer Gueye à jouer. Il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il va lui supprimer sa prime d'éthique? C'est une question qui est posée. Ce qui est sûr, c'est que les services juridiques et les ressources humaines du PSG suivent l'affaire avec beaucoup d'attention, d'autant que le Conseil national d'éthique de la Fédération française est monté au créneau, exigeant des explications de la part du joueur, une démarche assez inhabituelle. On va voir comment le Paris Saint-Germain et Gana Gueye réagissent à cette demande du CNE.
Mamadou, vous avez une autre question pour Antoine.
De manière générale, quelles mesures ont été prises récemment dans le milieu du football pour lutter contre l'homophobie?
Antoine.
Alors, il y a l'organisation d'ateliers de sensibilisation à l'homophobie dans les clubs et les centres de formation, donc auprès des plus jeunes. Et puis, l'action dont on parlait, elle a mené à une vente aux enchères organisée en faveur d'associations LGBT. Les maillots floqués arc-en-ciel ont été vendus aux enchères et les profits reversés à des associations.
Et l'homosexualité reste un sujet encore tabou dans le foot?
Oui, très tabou, même si très récemment, un joueur anglais, Jack Daniels, 17 ans seulement, qui évolue en deuxième division anglaise, a fait son coming out, mais c'est une démarche qui reste extrêmement rare dans le sport collectif masculin en Europe.
Merci beaucoup Antoine pour ces précisions. Mamadou, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à tous les deux.